de suite, c'est le NRV. On est en début de semaine, alors on donne le menu de ce qui vous attend. Invité, débat, musique. Et ça commence par un duo Black et Mortimer. C'est le sujet du NRV, la suite de jeudi prochain.
Par le Saint-Culotte de McGregor.
Et quoi, Kitty ?
La marque jaune dans votre dos.
Ça alors ?
Je travaille sur les choses que nous partageons. Je voudrais que mes images apparaissent presque comme des empreintes. C'est comme du pas dans le sable. Il y a eu quelqu'un et il n'y est plus.
1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen s'est réveillée, nettoyée par l'armée.
Where are you from?
From the Netherlands.
Lucky don't meet in?
Full-time rap, so what catch don't you? Is it okay with you?
Jérusalem, à mesure qu'on la quitte, s'enfonce dans la verdure des oliviers. Je croyais la revoir encore et lui dire adieu. Et quand je me suis retourné, elle avait complètement disparu.
Ce qui frappe dans les résultats de cette élection, c'est la déroute de LR, les Républicains.
Ce résultat n'est évidemment pas à la hauteur des espoirs soulevés dans cette campagne.
Je veux pas être un obstacle, à aucun prix.
Camille Abili, oh, elle joue bien les Françaises. Elles sont sur leur nuage. C'est le troisième but pour l'équipe de France.
On the Sly, six music, sonic themes, 2013.
Attends. Quand je fais pour la première fois l'amour avec elle, j'éprouve une émotion qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai regardé.
Je suis féministe, mais je vois pas quelle femme ne pourrait pas l'être, quoi.
J'ai passé près de 7 ans sur YouPorn et ses petits frères, et je suis fatiguée.
Ah, le saxo supersonique de Thomas de Pourquerie sera notre invité demain avec Jill Peterson, un activiste culte de la scène musicale. Dessin féministe avec Nine Antico et porno assumé par Claire Richard, ce sera jeudi. Mercredi, Ernest Pignon-Ernest rencontre Amos Gitaille. Et dans le NRV, la suite cette semaine, du foot féminin mercredi, la Chine demain, la droite ce soir. Tout de suite, c'est cinéma, cinéma avec Manuel Chiche et Romain Cogitor.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes lundi 3 juin et c'est votre nouveau rendez-vous. Toujours coup double, c'est la nouveauté de l'année. Vous pouvez nous écouter chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr ou alors sinon, c'est la version classique, 22h minuit. Ça marche, hein, c'est à l'antenne, comme tout le monde. Ce soir, cinéma Palme d'Or pour Manuel Chiche, activiste du cinéma coréen, producteur et distributeur historique de Bong Joon-ho, qui va tout casser avec son film Parasite, ovationné à Cannes. Le film sort mercredi prochain. Cette palme, c'est un peu la consécration de votre boîte de Joker's Film. Ce soir, le Joker, c'est vous. Manuel Chiche, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, après la Corée, direction Taïwan avec Romain Cogitor pour son deuxième film, L'autre continent, une histoire d'amour surdouée et menacée par la maladie, l'invention d'un autre mélo. Romain Cogitor, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV la suite ce soir, la droite, règlement à Vauquier Chorale, Christophe Borsier.
Pas mal comme titre.
Excellent.
Hein, qu'est-ce que vous en pensez?
Un des meilleurs.
J'ai trouvé dans le RER, vous voyez.
C'est
comme
pas
quoi,
mais il faut le prendre.
Mais évidemment, vous le savez très bien. Donc il y aura vous, moi, pour cette deuxième partie. Il y aura, on va parler de la droite, vous l'avez compris, bien sûr. Il y aura également Dominique Régnier, politologue. Et il y aura Henri Guénaud, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Chantal Delsol, philosophe. Et puis Fabrice Lhomme, le journaliste qui vient de sortir une histoire incroyable de la droite, une histoire secrète de la droite.
La haine.
La haine.
Eh bien.
C'est pas nous, ça.
Bah non, c'est pas. Non, nous, c'est que d'amour.
Ah oui, oui, vraiment.
Pauvre type.
Salaud.
Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Donc ce soir, cinéma, cinéma et Palme d'Or pour Manuel Chiche, donc un activiste du cinéma coréen. C'est un peu le programme du routard hein, ce soir, parce qu'il y a Taïwan, il y a la Corée. Vous vous connaissez Manuel Chiche et Romain Cogitor? Vous vous connaissez tous les deux?
Depuis 5 minutes.
Depuis 5 minutes, pas plus, pas moins. Très bien. Retour gagnant de Cannes pour vous, Manuel Chiche, avec Palme d'Or pour Parasite, le film de Bong Joon-ho, réalisateur coréen que vous produisez, que vous distribuez, que vous suivez depuis combien de temps?
Ah, c'est une vieille histoire que je suis activement depuis 7-8 ans, on va dire.
Et moins activement depuis quand?
Depuis 15 ans.
Comment vous êtes rencontré avec Bong Joon-ho? Autour de quoi?
C'était après Memories of Murder, qui était un film que j'avais beaucoup aimé, mais sur lequel je ne m'étais pas engagé, à tort. Et donc j'ai essayé de rattraper mon erreur et on s'est rencontré entre Memories of Murder et The Host, à Busan. Je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour son film et à quel point je voulais travailler avec lui.
Et pourquoi vous n'étiez pas engagé sur ce film-là?
Parce que j'ai été
qui
stupide.
Est son chef-d'œuvre. Ouais.
Je suis d'accord. Ouais. Je me suis dit, c'est très bien, mais jamais ça marchera chez nous. Et en fait, ça a plutôt pas mal marché.
C'est devenu un film culte hein, pour toute une génération. Romain Cogito, vous connaissez ce film?
Oui, oui, je l'ai vu en salle. Ouais. Moi, je suis un fan du cinéaste depuis 15 ans aussi. J'ai vu tous ses films, à part le premier.
Et le cinéma coréen, plus largement, vous connaissez un petit peu?
À part John Bong-woo et... Non, quasiment pas. Non.
Il y en a plein d'autres.
Il y en a pas mal d'autres. Mais on peut les citer en vrac.
Ouais, allez-y, jetez-les en vrac.
Park Chan-wook, Kim Ji-hoon, Lee Chang-dong, Hong Sang-soo, pour citer que les plus connus. Quoi.
En Corée, Bong Joon-ho, aujourd'hui 49 ans, il est considéré comme un trésor national après cette palme.
Ah ben là, ça y est, c'est la rockstar. Vous avez dû voir les images de l'arrivée à l'aéroport de Séoul. Il a eu une lettre du président. Enfin bon, et le film a fait... 3,3 millions d'entrées en 4 jours, c'est parti pour être le record historique all-time en Corée.
Donc à son retour en Corée, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport?
Il était attendu à peu près comme nos footballeurs au sortir de la Coupe du Monde. Quoi. Donc par des fans en délire, et il fait la fierté de tout un pays. C'est la première palme d'or sud-coréenne, donc c'est quand même quelque chose d'important.
Et vous ne l'avez pas accompagné dans son retour? Vous n'aviez pas envie de vivre ça? Où il y a pas mal de boulot à faire.
C'est-à-dire, on a un peu de travail, on sort dans 2 jours, donc il y avait des choses à préparer, et très vite en plus.
Vous sortez dans combien de salles?
Je pense qu'on sera sur environ 200 salles mercredi.
S'il n'avait pas eu la Palme d'Or, il serait sorti dans combien de salles?
120, je pense.
Ouais, comme quoi ça double la mise. Hein.
Ça aide pas mal, c'est comme un cachet lu et approuvé, quoi.
Vous avez les reins solides pour pouvoir assumer un tel succès avec votre boîte?
Les reins solides, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
je veux dire, il y a toute une, une infrastructure, tout un truc à mettre en place. C'est pas évident pour des boîtes indépendantes.
Notre toute petite équipe, elle bosse jour et nuit, 7 jours sur 7. Donc on espère pouvoir satisfaire tout le monde. Ouais.
Romain Cogitor, deuxième film. Cannes, vous connaissez un petit peu aussi? L'année dernière, vous y étiez avec votre frère, Clément Cogitor?
Je connais, mais j'y suis pas allé.
Vous n'êtes pas allé au festival?
J'y suis allé l'année dernière, mais en tant que spectateur.
En tant que spectateur, pas
et
pour...
Et aussi pour présenter le film auprès du gouvernement taïwanais, qui avait un pavillon là-bas, donc ça a été l'occasion de...
Et comment ils ont regardé? Comment ils ont compris ce que vous aviez travaillé?
On a travaillé ensemble, c'est la première coproduction franco-taïwanaise effective. Donc c'est une première pour les deux pays.
Quel rapport vous aviez avec ce pays avant de tourner là-bas?
Avant de tourner là-bas, moi, j'avais aucun rapport.
Et alors, pourquoi fallait-il tourner là-bas?
C'est l'histoire que m'a racontée la femme que j'ai rencontrée dans un train. Et cette histoire vraie se passait en Asie. Donc, ça a été aussi une manière pour moi, finalement, de marcher un peu dans ses traces et puis de découvrir ce qui comptait pour elle.
Qu'est-ce qu'elle vous a raconté exactement?
Déjà, faut...
Véritablement, cette histoire... Donc, c'est l'histoire, une histoire d'amour entre un jeune homme... 30 ans, une jeune femme, 30 ans, qui se rencontre à Taïwan, c'est ça, pour l'instant. Tout se passe bien, vraiment, c'est le conte de fées. Mais la maladie va arriver. C'est ce qu'elle vous a raconté?
C'est ce qu'elle m'a raconté, oui, après avec plus de détails, mais en disant aussi, elle me disait, c'était trop beau pour être vrai, ça pouvait pas durer. Et il y a ce côté-là aussi dans les images de Taïwan et dans le début du film, avec quelque chose de très lumineux, de très coloré. Et tout d'un coup, le destin qui leur tombe dessus... qui, pour moi, est un petit peu la définition du mélo. C'est-à-dire quelque chose d'énorme nous arrive dessus, on peut pas y faire grand-chose, et pourtant, il va falloir se débattre, et il va falloir puiser au fond de son humanité et chercher les ressources qu'on a face au destin.
Quand vous arrivez à Taïwan pour la première fois, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Romain Cogitor?
C'est étonnant, parce que Taïwan, c'est... Autant j'ai repéré, par exemple, en Chine... Et j'ai été surpris des différences culturelles du rapport entre l'individu et le groupe. Quand on fait un film, généralement on considère qu'il y a l'équipe du film et puis il y a le reste du monde. Et puis on essaye un peu de se battre pour faire un film. Là, en repérant en Chine, c'était plutôt il y a les Chinois et le reste du monde. Donc il y avait la personne qui travaillait avec nous, souvent on avait l'impression qu'elle était contre nous dès qu'il s'agissait de son peuple. Donc de ce point de vue-là, en arrivant à Taïwan... Moi, ce qui m'a étonné, c'est en fait la simplicité culturelle et la simplicité de relation. Voilà, la langue anglaise est très bien parlée par mes collaborateurs. Donc j'avais l'impression d'être dans un pays en grande partie occidental, en tout cas dans les relations de travail.
Et vous, Manuel Chiche, la première fois que vous êtes allé en Corée, c'était en quelle année?
Je pense que ça doit être 2005, hein, un truc comme ça.
Et quelles étaient les premières images qui vous ont frappé?
Les premières images, c'est que je me suis retrouvé à Busan, qui est une ville portuaire, qui ressemble à ma ville natale, Marseille. Donc je me suis senti très à l'aise, vu que les Sud-Coréens sont exactement comme mes camarades sudistes, très chaleureux, bon vivant et assez simples.
Qu'est-ce que vous étiez allé faire la première fois?
Je suis allé à un festival, et c'est là que j'ai rencontré Bong d'ailleurs.
Vous avez rencontré donc toute cette génération à ce moment-là. Et quel genre de festival on montrait à cette époque-là, en 2005?
C'est un festival du cinéma asiatique, donc ça donne un panorama du cinéma asiatique chaque année, avec une petite compétition asiatique.
Vous êtes producteur, distributeur, vous n'avez jamais voulu passer vous derrière la caméra?
Oh non, ça c'était quand j'étais petit. Et puis vous vous rendez vite compte que vous n'avez pas forcément le talent et qu'à la limite, si vous avez un talent, c'est plus d'être au service de ceux qui font les films.
Alors que vous, ça a commencé très tôt, hein, Romain Cogitor?
Oui, tout petit, enfin enfant, je faisais du théâtre, de la musique et ma première passion, c'était la photographie. Et c'est la photo qui petit à petit m'a amené au cinéma.
Et on verra justement la façon dont vous avez de traiter au niveau de l'image donc ce nouveau mélo d'un autre genre. On vous a demandé des sons à chacun pour faire plus amplement connaissance. Un son politique pour vous, Manuel Chiche?
Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir.
Vous aviez quel âge, Manuel Chiche?
Je dois avoir 10 ans.
Ouais, c'est ça.
Je suis étonné que vous l'ayez trouvé.
Ah. Vous nous donnez des sons pour qu'on ne les trouve pas.
Non, j'étais pas sûr que vous
le trouveriez. Juliette Medeviel s'est mise au travail, elle a bossé.
Mais c'est un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Je suis en train de regarder L'homme de Kiev de Frankenheimer. Et le film qui est déjà très dur pour un gamin.
De 10 ans, oui.
Ça montre les pogroms, etc. Enfin, comment des minorités se font harceler. Puis d'un coup, je vois l'annonce de la mort du président et c'est devenu carrément une soirée funéraire, quoi. Je me disais, mais il y a de la mort partout. Enfin, ça m'avait assez traumatisé. J'avais assez mal dormi.
Cinéma pour vous, Romain Cogitor.
Monte devant, tu vas voir. Monte, la marche avant est là. Hein. Attends, attention, marche avant. Là. Attention, tourne doucement, vas-y, avance. Appuie.
J'adore. C'est pas du tout un documentaire.
C'est Le Garçu de Maurice Pialat,
ouais.
qui moi est mon film préféré.
Là, c'est Depardieu qui amène, un camion.
C'est Depardieu qui amène un camion, mais qui fait quasiment la taille de Depardieu. À un enfant de 5 ans, au milieu de la nuit, et la scène elle-même, enfin, on voit le camion part en miettes déjà dans l'appartement, et on ne sait pas trop ce qu'on regarde en fait, on ne sait pas à quel point justement c'est de la fiction, à quel point c'est du documentaire, qu'est-ce qui est improvisé, qu'est-ce qui n'est pas improvisé, et en même temps on a un acteur immense dedans qui est Depardieu, donc c'est un film que je trouve magnifique, et qui est aussi, enfin, Pialat en parlait comme d'un ratage, et j'aime beaucoup ces ratages-là, où c'est des ratages très émouvants.
Des grands films malades, en fait, on appelle ça,
Ben moi, c'est ce que je préfère, parce que les grands films parfaits, ils ont quelque chose d'imposant, mais c'est plus dur d'établir un dialogue avec eux. C'est plus s'ils nous imposent quelque chose, alors que là, un film comme Le Garçu, on peut y revenir sans cesse et puis y regarder dans les failles, dans les béances, du montage, de tout ce qui va pas, et y voir une beauté et chercher des réponses.
Vous êtes d'accord, Manuel Chiche?
Moi, j'aime beaucoup Pialat, c'est un des cinéastes français dont j'aime la colère et le côté brut. C'est quelque chose qui me touche par rapport à beaucoup d'autres choses que je trouve très surfaites.
Du foot pour Manuel Chiche.
Monsieur Roethlisberger regarde son prono. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis!
Quelle soirée, mes amis, Manuel Chiche.
C'était à peu près les mêmes larmes que pour la Palme d'Or. Grosso modo.
Qu'on écoute là?
Là, on écoute Marseille qui remporte la Ligue des Champions en 93, si ma mémoire est bonne. Et c'était pour nous, jeunes émigrés en région parisienne, un moment immense, quoi. Le foot restant le lien avec notre ville natale, puisque je suis parti à Paris avec pas mal de potes. Et c'est resté quand même quelque chose de très fort et très important. Puis c'est culturel à Marseille. Quoi. Vous pouvez pas être Marseillais sans aimer le foot, en fait.
Et vice-versa.
Là, faut subir un peu en ce moment, mais bon, on s'accroche.
Comment ça, il faut subir?
Vous avez vu la saison.
Oui, j'ai vu la saison. Elle réjouit certains.
Elle réjouit forcément certains, mais... voilà,
vous-même, vous jouiez au foot?
Non, pas du tout.
Ah bon?
Pas du tout.
Ah, juste non, un spectateur?
Ah, totalement, j'adore le foot sur mon canapé.
Ah oui, même pas en stade?
Non.
Ah, vous êtes vraiment...
Ouais, j'ai vieilli, hein, vous savez, je vais plus trop au stade maintenant. C'est mon fils qui a pris la relève.
Romain Cogita, vous faites du foot?
Non, je fais pas de foot, non, mais
vous
mon
regardez
fils, intensivement.
Et vous regardez?
Ben, il commence à m'y intéresser. Donc
voilà, c'est ça.
J'ai regardé mon premier match à 33 ans.
Bienvenue au club. Un son domestique pour vous, Romain Cogitor.
Ah, vous n'avez pas franchement trouvé le son de traite. Hein.
Non, c'est un son de traite des vaches, mais...
Ça devait être un son de traite, mais il y a une pompe, en fait, mécanique. Et donc, j'ai passé mon enfance à la montagne.
Où ça?
Dans les Vosges, dans un village qui s'appelle La Poutroie. Et il y avait, le soir, une heure précise, il y avait la pompe de la ferme d'en bas qui se mettait en marche, qui indiquait l'heure de la traite. Et on pouvait aller chercher notre seau de lait, ce qui pour moi était tout à fait naturel. Et puis, c'est au fur et à mesure des années, notamment en arrivant à Paris, que je me suis rendu compte que c'était un peu spécial, en fait, de passer une
enfance. On a eu la même enfance. Moi, c'était à Villard-de-Lans. J'habitais dans un lycée, il y avait une ferme à côté. Et à 18h, on allait chercher le lait à la ferme. Donc il y avait même l'odeur de ce lait très, très particulier. Et c'est une enfance qui...
Mais c'est une enfance qui marque et qui, je pense, les images de cette enfance-là m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Et dans les films que j'ai envie de faire, il y a beaucoup d'histoires qui se passent en forêt, qui se passent en montagne. Voilà, dans des... Enfin, souvent, je me sens moins à l'aise dans des scènes d'appartements, de chambres, etc.
Donc, la mer Marseille du côté de Manuel Chiche et la montagne vosgienne pour vous. On vous retrouve tous les deux dans quelques instants. Tout de suite, on part du côté de Clara Luciani, encore auréolée de sa victoire pour la révélation scène. Clara Luciani est nue dans le NRV, mais ça ne se voit pas, c'est à la radio.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Le rose à mes joues et je viens.
rendez-vous.
Laurent Goumard.
I'm so sorry, I didn't prepare the French.
Je suis désolé, je n'avais pas préparé de discours en français. Je ne m'imaginais pas un seul instant que j'emporterais la Palme d'Or.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Vous êtes où, vous, à ce moment-là, dans la salle du Palais des Festivals à Cannes, Manuel Chiche? Vous, le distributeur et producteur de ce film Palme d'Or, on vient d'entendre Bong Joon-ho traduit en français, ouais. Vous êtes où, vous?
Je suis pas très loin, je suis dans la rangée de devant, à observer Bong au fur et à mesure des annonces de prix, et en le voyant avoir le visage de plus en plus rouge, en fait. Et quand le Grand Prix est annoncé, je me dis, bah, soit,
c'est foutu, ouais.
Soit c'est la loose totale et on n'a rien et on est venu pour rien, soit c'est la palme. Donc c'était la palme et il était très très rouge.
Quand il était rouge au fur et à mesure, ça veut dire qu'il attendait quand même quelque chose.
Bah, quand vous êtes rappelé...
Ouais, c'est ça, ils sont rappelés.
Vous vous dites, normalement, on doit avoir un truc. Et il s'avère qu'on ne pensait pas qu'il aurait... le prix le plus prestigieux, et en même temps était tellement heureux pour lui, d'abord, avant d'être heureux pour nous, qui sommes juste le passeur au milieu de tout ça. Mais ça récompense, je pense, un immense cinéaste.
Voilà, ça récompense un immense cinéaste, mais ça récompense aussi presque une sorte de tournant, en fait, dans l'histoire du festival, c'est-à-dire un film de genre, et quand je dis de genre, je mets un S à genre. Hein.
Ça sera un film de tous les genres.
Voilà, de tous les genres, comédie pure, comédie sociale, horreur, thriller.
Et aussi un vrai drame sur, ouais. Sur la perte. Je veux pas en faire trop non plus, puisque
vous pouvez vous permettre.
Oui, mais le film sera en salle le 5,
mercredi.
Mercredi. Et j'attends de voir ce qu'en vont penser les spectateurs. Mais d'après les retours qu'on a des avant-premières, ça a l'air de faire une unanimité à laquelle nous sommes peu habitués.
Dans cette société.
Voilà.
On va en parler. Romain Cogutor, vous irez voir, j'imagine.
Bien sûr.
Vous attendez ça aussi?
Oui, oui.
On vous en a parlé? Quelqu'un l'a vu autour de vous?
Eh ben non, c'est tout frais, donc.
Et le producteur et distributeur qui suit donc ce réalisateur depuis pas mal d'années, qui a monté sa boîte de production, ça n'a pas toujours été évident, un indépendant, qu'est-ce qu'il se dit pendant cette séance?
Il se dit que peut-être ça va bien se passer, puis après ça se passe bien, et donc vous allez cuver tranquille avec votre équipe parce que vous avez quand même beaucoup bossé, mais vous êtes déjà... sur le coup d'après. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous dire, bon, il faut qu'on refasse toutes les affiches, l'affichage démarre dans deux jours, il faut qu'on rajoute le logo, etc., ouais. etc. Et donc, voilà, vous avez mis cinq secondes à apprécier, et puis, vous êtes en train de bosser pour la sortie.
Des problèmes de riches, pour une fois.
Des problèmes de riches, on aimerait bien en avoir plus souvent, mais bon, au moins, on en a une fois, c'est déjà pas mal.
Votre société de production s'appelle The Jokers Film, c'est ça? Elle a été créée il y a cinq ans. Pour quel type de cinéma, Manuel Chiche?
Les formules, c'est pas trop mon truc, mais on va dire pas vraiment le cinéma mainstream ni le cinéma art et essai. Est-ce qu'il y a une voie au milieu qui combine un peu les deux? Je crois.
Au départ, vous éditiez de la vidéo?
Ouais, enfin, ça a fait partie des choses que j'ai faites.
Ouais. Il y avait Wildside aussi.
Ouais,
et Wildside. Là encore, c'était la même idée du cinéma?
Toujours. Les chemins de traverse. Et des fois, bah, y a des croisements qui se font, mais ça arrive pas souvent.
Parasite, un film superbe, à la fois thriller, horreur, comédie sociale, comédie pure, tous les genres pour une double histoire de famille. La première, c'est le sous-prolétariat. Ils vivent à quatre dans un sous-sol, le mari, la femme et deux enfants. Et ils vont réussir à s'infiltrer, à bosser pour une famille de la grande bourgeoisie coréenne de Séoul. C'est lutte des classes, c'est lutte finale en Corée. C'est une réalité, véritablement, cette disproportion entre... un sous-prolétariat qui vit presque dans un souterrain, et puis la grande société qui vit sur les hauteurs de Séoul.
Mais je pense que ce qu'on appelle la fracture sociale, enfin on le voit...
On la voit ici, bien sûr.
On la voit ici, on la voit partout. C'est criant dans toute l'Europe avec la montée des populismes, qui est un grand classique. Je trouve que c'est aussi un film important, en plus d'être un divertissement. Ça dit des choses de manière extrêmement fine, et c'est aussi un appel à la solidarité.
Le réalisateur, lui, vient de quel milieu?
Je pense qu'il vient d'un milieu plutôt classe moyenne, mais il a toujours été extrêmement préoccupé par le devenir des sociétés. Et pour moi, Bong Joon-ho est un grand humaniste, et pour lui... Enfin, je pense à travers toute sa filmographie, l'humain avant tout et la lutte des classes, c'est sont deux choses très importantes. Donc il amène sa petite pierre à l'édifice via le cinéma, parce que ça reste toujours une petite pierre, mais au moins il le fait.
La lutte des classes, c'est important aussi pour vous, Manuel Chiche ?
C'est très important pour moi,
oui. À quel niveau ?
Je viens pas d'un milieu... je viens pas d'une classe sociale très élevée, on va dire. C'est quelque chose qui me touche. Et quand je vois ces minorités silencieuses s'exprimer dans la rue, je me dis qu'il y a quand même une vraie problématique. Le fossé qui s'est créé, depuis les années 90 et les débuts de l'ultracapitalisme, font que cette fracture a jamais été résolue par aucun gouvernement dans quelque pays que ce soit, et elle fait qu'empirer. Donc tout ça ne présage rien de bon si personne ne s'y attelle.
Et cette lutte des classes, elle apparaît aussi dans le cinéma, dans le mode de production, dans les modes de diffusion, j'imagine ?
Forcément, mais je ne suis pas persuadé que... on est toujours sur les mêmes problématiques. Il y a les habitués et ceux qui essayent d'eux. Mmh. Et ceux qui essayent d'eux, luttent plus que les autres, quoi. C'est un grand classique, mais on s'accroche. Et je suis très très confiant dans ces jeunes générations qui arrivent, que ce soit des producteurs ou réalisateurs, parce qu'ils sont bien moins formatés que leurs prédécesseurs. Et ils n'ont pas froid aux yeux. Et j'aime bien ça.
Comment vous êtes arrivé au cinéma ?
C'est un peu long à raconter, mais...
Comment vous avez commencé ? Par des études de cinéma ?
Ouais, j'ai fait des études de ciné.
Et pour devenir quoi ?
Au départ, je pensais devenir réal. J'ai fait pas mal de documentaires pour la télé, ce genre de trucs. Et puis vous arrivez à Paris et puis vous vous dites, vu la qualité de ce que j'ai fait au préalable, tout le monde va me rappeler et puis personne ne vous rappelle, quoi. Et donc là, vous vous retrouvez à faire autre chose. Et donc j'ai dû faire autre chose pendant pas mal de temps. Et puis après, je me suis retrouvé à vendre des films sur VHS en supermarché. Et puis je suis parti de là, en fait.
C'est comme ça que ça fait tout ce parcours ?
Ouais.
Vous avez fait une école, vous aussi, Romain Cogitor ?
Non, j'ai pas fait d'école. J'ai fait une prépa qui s'appelle Cinésup.
Ouais.
Et puis sinon, j'ai toujours été un petit peu pressé. Voilà, c'est peut-être dû, en fait, je suis né avec un cœur qui n'était pas étanche, avec le cœur gauche et le cœur droit qui communiquaient. Donc j'étais censé durer à peu près 8-9 ans, et puis heureusement, ça aurait été le cas si j'étais né 20 ans avant. Et puis là, j'ai pu être opéré et sauvé. Mais ce départ dans la vie a fait que, d'avoir eu un cœur ouvert, d'avoir eu ce rapport très proche à la mort, je crois, a fait que ça a conditionné un certain romantisme déjà, et puis une urgence à griller les étapes. Donc souvent je regrette d'être allé trop vite et en même temps...
Quelque chose que l'on peut voir justement dans le film dont on va parler tout à l'heure, qui est vraiment... qui fait écho à ce que vous avez pu vivre, vous, à un moment donné de ce parcours. Je me suis demandé comment vous avez construit votre propre cinéphilie, Manuel Chiche. Vous dites donc pas le mainstream, pas l'arrêt essai.
Beaucoup sur le... je suis allé très tôt au cinéma tout seul, c'était mon petit dada à moi, et mes parents me laissaient faire assez facilement. Et,
En même temps, quand on voit L'Homme de Kiev à 10 ans, ça va, on peut...
Ouais. j'ai eu la chance d'avoir des parents assez cool. Je suis allé voir beaucoup de films de genre, je lisais énormément aussi, beaucoup de bouquins sur le cinéma. Puis c'est l'apparition des VHS et ainsi de suite, le vidéoclub, braver un peu les interdits, tous les films interdits au moins 18 ans, ce genre de choses. Puis ça vous, petit à petit, vous trouvez des choses qui vous surprennent et ainsi de suite. Et j'ai toujours adoré les chemins, j'utilise cette formule tout le temps, mais les chemins traversent.
Les marges, quoi, ouais. Pour pouvoir aujourd'hui réinfiltrer le monde dominant, celui de Cannes. Comment la profession des exploitants regarde vos films depuis le début ? Oui, j'imagine que ça va changer, mais...
Changer pour un film.
Pour un film, mais attendez.
Avec un œil légèrement suspicieux, en disant, qu'est-ce qu'il nous a concocté encore ? Et puis des fois ils sont contents, mais en général on est plutôt dans la position du demandeur Là, avec Parasite, ça change un petit peu.
Oui.
Mais on y reviendra vite.
Ah oui, vous pensez ça?
Ah oui. C'est comme ça que ça tourne.
Mais c'est quand même pas un accident de l'histoire d'avoir eu la Palme d'Or avec ce film-là. C'est quand même depuis des années, on voit quand même que ce cinéma, notamment Bong Joon-ho,
spectateurs. Non, c'est pas un accident de l'histoire, mais...
Et pas que des geeks qui vont voir ce genre de film.
Ah, sur celui-là, non, je pense que le public sera bien plus large. Mais... ces réalisateurs-là, puisque vous savez qu'il y en a trois avec qui on travaille régulièrement depuis des années, qui sont Park Chan-wook, Bong Joon-ho et Nicolas Winding Refn, ne font pas un film par an. Donc, en dehors de ça, les jeunes cinéastes qu'on essaie de faire découvrir...
Tout le monde n'est pas Woody Allen,
ouais. Vous me l'avez enlevé de la bouche. en même temps, les jeunes cinéastes qu'on essaie de faire découvrir, c'est un chemin qui est beaucoup plus compliqué. Et c'est des choses qui se font et qui se construisent avec le temps. Et le temps, quand on est une petite société indépendante comme la nôtre, on n'en a pas énormément.
Je me suis demandé aussi comment vous regardiez, vous, la chronologie des médias. Manuel Chiche, en tant que producteur et diffuseur, vous devez avoir une idée.
Oui, forcément. Mais,
vous préconisez quoi?
Moi, je préconise bizarrement une ultra-libéralisation au niveau de la chronologie des médias.
Ah ouais.
Je pense que...
Tout en même temps, quoi.
Pas forcément, mais celui qui doit décider, c'est plutôt le producteur ou le distributeur. Je pense qu'il est suffisamment grand pour savoir ce qui est de mieux pour l'œuvre qu'il défend. Là, on doit composer avec une régulation qui nous est imposée. Et je trouve ça très déstabilisant parce que pas mal de petits films, par exemple, auraient gagné à avoir une exploitation de l'ensemble des médias plus rapide.
En salle, en VOD, en...
Peut-être, ou peut-être même... vous savez, aujourd'hui, les gamins qui ont entre 15 et 25 ans, ils regardent le film sur n'importe quel support. Moi qui prends les transports en commun tout le temps, j'y assiste et ça gêne personne. Donc l'essentiel pour un film, c'est de circuler, d'être vu, et de séduire le public. Donc j'ai toujours l'impression qu'on est resté un peu au XXe siècle, alors c'est un petit peu gênant. Alors j'entends le fait de protéger une industrie nationale. Je pense qu'elle ne pâtirait pas forcément d'être soumise aux lois du marché.
Romain Cogitor ?
Moi, je suis un peu plus protectionniste, mais la chronologie des médias, c'est un moyen de faire pression sur des grands groupes sur lesquels on peut pas beaucoup faire pression, notamment les GAFA aujourd'hui, ou Netflix, qui pour l'instant a pas de compte à rendre au cinéma français. Et bousculons la chronologie des médias à partir du moment où ces grands groupes participent au financement du cinéma français. C'est surtout ça le problème.
Avant de se quitter, je voudrais qu'on écoute un son que vous nous avez aussi apporté et qu'on a trouvé. Ça, c'était beaucoup plus facile, Manuel Chiche. Quel est le lien que vous avez avec cette musique, Manuel Chiche?
En fait, là, ce que vous venez de faire écouter, ce sont les Dale Vikings, qui, dans les années 50, étaient le premier groupe de doo-wop interracial, c'est-à-dire mélangeant chanteurs blancs et chanteurs noirs. Et moi, j'ai grandi dans un monde où tout se mélangeait.
À Marseille.
À Marseille, dans les cités marseillaises, et où les communautarismes n'existaient pas. Et je trouvais que c'était un clin d'œil sympa d'utiliser ce morceau qui également me rappelle mes années de jeunesse.
Tous les milieux cohabitent aussi dans le milieu du cinéma français ?
Certainement pas.
C'est bien ce que je voulais vous faire dire. Parasite, sorti en salle mercredi prochain. Vous restez avec nous, Manuel Chiche. Il va être encore question de cinéma dans quelques instants avec Romain Cogitor. Woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be
I'm headed to downtown, town in style, with all my favorite clothes. Yes, sir. All my favorite clothes. Hi. My sisters and my brothers see them like new.
Colors signé Black Pumas, un extrait de leur premier album prévu pour le 21 juin. Une programmation donc très fête de la musique de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Je pense pas que ce soit une bonne idée de retourner en Asie maintenant. C'est vrai, Olivier répond bien au traitement, mais je pense que c'est parce que vous êtes là. Pour l'instant, son meilleur traitement, c'est vous.
Je bosse plus. Je suis en train de griller toutes mes économies. Il faut que vous me disiez à quoi je peux servir concrètement.
Aimez-le.
Arrêtez avec vos conneries de cato. Donnez-moi une réponse de médecin.
C'est une forme extrêmement rare de leucémie. L'hôpital en a traité à peine 5, en 40 ans.
Combien ont survécu ?
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Juste un extrait de ce deuxième film, L'autre continent, pour donner le ton, signé Romain Cogitor, un vrai faux mélo pour une histoire d'amour entre Maria, romancière à venir, qui part à Taïwan. Signe particulier, elle parle néerlandais. Et Olivier, qui fait le guide à Taïwan, signe particulier, il parle 14 langues. L'histoire des langues, ça vous permettait quoi,
Romain Cogitor ? Ça permettait de faire virevolter plusieurs thèmes et de les faire un peu graviter autour d'un même centre qui est le cinéma. À savoir notamment la mémorisation. Et dans le film, il est question d'une technique de mémorisation qu'on appelle la mémoire des lieux, où on utilise un lieu qui nous est familier comme sa chambre ou sa maison d'enfance. Et mentalement, on visualise les pièces et on classe dedans un discours ou du vocabulaire ou des chiffres et on le reparcourt mentalement. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans un discours, on dit en premier lieu, j'aimerais vous parler, ta 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 ta. C'est parce que dans l'Antiquité, c'était véritablement un art, cette méthode, qui s'est perdue peu à peu avec l'invention de l'écriture.
Comment vous avez entendu parler de cette méthode ? De mémorisation des lieux, méthode des lieux.
Ben, notamment en me penchant sur la question des personnes qui parlaient 14 langues et qu'il faut bien avoir une méthode au bout d'un moment.
Et ils ont cette méthode-là, précisément?
Et certains ont cette méthode-là, oui.
Que vous connaissiez, Manuel Chiche?
Pas du tout.
Et c'est assez impressionnant dans le film. Alors justement, on va parler du film, mais là, quand on met au point cette méthode des lieux qui apparaît comme un motif important pour votre film, visuellement, ça demande quoi? Parce qu'il va bien falloir passer sur le plan du cinéma. Pour montrer ça, comment on se débrouille?
C'était justement toute une question de comment rendre cette idée abstraite cinématographique. Ouais. Moi, j'ai utilisé un objectif spécial qui est utilisé pour l'architecture et en l'utilisant à l'extrême, c'est-à-dire en le tordant d'une façon qui n'est pas conçue pour. Et ça donne des images bizarres qui ressemblent un petit peu à une maquette, qui ressemblent un petit peu à des photographies, qu'on voit des humains qui s'agitent dedans. Donc c'est une perspective déformée qui ne correspond pas à l'œil humain.
Comment les acteurs ont-ils fait pour les langues?
Ils ont travaillé dur, ils ont été coachés sur le mandarin, et puis après j'ai essayé moi de me rapprocher des langues qui parlaient déjà, soit dans lesquelles ils avaient déjà des rudiments, donc le néerlandais pour Déborah.
Ouais, qui est belge.
Qui est belge, mais qui n'est pas bilingue néerlandais. Et pour Paul, qui avait tourné un film en portugais. Donc voilà, donc on est...
Vous étiez déjà servi, oui, de ce qu'il avait pu apprendre. Et vous parlez combien de langues?
Moi, j'ai une seule, l'anglais, enfin deux, une seule langue étrangère, l'anglais, que j'ai vraiment travaillé pour le tournage.
Oui, parce que là-bas, il fallait bien communiquer avec les habitants, avec l'équipe. Juste une question, la mémorisation des lieux, la méthode des lieux, vous l'avez testée?
Moi, je l'ai un tout petit peu essayé, mais
alors, ça marche.
Déborah, elle s'en est servie pour le mandarin.
Ah, véritablement?
Mais oui, ça marche. Et vous essayez de parcourir un lieu que vous connaissez bien mentalement, ça pose aucun problème. C'est vraiment une faculté de l'esprit humain.
Signe particulier donc pour Olivier, il a développé sa technique de mémorisation. Les deux se rencontrent, ils vont s'aimer, mais tout est vraiment trop beau. C'est un conte de fées qui va vivre un coup de théâtre. Olivier est malade, atteint d'un mal qui demande qu'on le rapatrie en France. Comment définir cette maladie? Dans l'extrait, on parlait de leucémie.
Le film se penche pas sur la maladie.
Non, c'est pas le journal de bord d'une maladie.
C'est ça. Donc elle est pas précisée. On sait que c'est une leucémie un peu spéciale. Et en fait, beaucoup de choses qui arrivent au personnage sont dues aux traitements qui sont faits pour soigner cette maladie mortelle. Donc pour sauver quelqu'un, il y a un moment où ça devient expérimental sur ce type-là de maladie et où il y a des dommages, notamment au cerveau qui, voilà. Mais ça, c'est pas détaillé dans le film. Et c'est plus sur le couple qu'on se penche.
Au départ, vous disiez que c'était l'histoire que vous avez racontée, une femme dans un train. On vous raconte des histoires à ce point-là dans un train?
On ne me l'a pas raconté dans le train. Je suis entré dans le train et je suis tombé immédiatement amoureux de cette femme. Enfin, je suis tombé sous le charme en entrant. Et puis pendant les 2 heures du trajet, je suis tombé amoureux sans oser lui parler. Et c'est seulement à la descente du train que j'ai essayé de l'aborder. Et j'ai failli la perdre d'ailleurs sur le quai. Et voilà, et on a échangé notre numéro de téléphone, et puis on a pris des verres le soir suivant, le soir d'après, et c'est seulement au bout de 2 semaines, dans un moment d'intimité, où elle m'a dit, avant qu'on aille plus loin, il faut que je te raconte une histoire. Et elle me l'a raconté d'une traite, en 1 heure et demie, et ça m'a bouleversé.
Marie, dans le film, est sur le point d'écrire un roman. Dans la réalité, la jeune femme est romancière, ou du côté de la littérature? Ou c'est une transposition cinématographique?
Ça fait partie de... Tous les faits de l'histoire sont réels, et c'est les personnages sur lesquels il y a un travail de fiction. Et ça fait partie d'un des points de fiction, parce qu'il fallait pouvoir donner une unité à ces 5 ans d'aventure, leur donner un seul élan et essayer de suivre un petit peu une trame, plutôt que de témoigner uniquement du chaos de la vie. Et le roman permettait de donner cette unité-là au récit.
C'est un film atypique. Là encore, tout à l'heure, on parlait du mélange des genres. Bon, c'est très radical chez Bong Joon-ho. Là, c'est beaucoup moins. Mais quand même, un mélo qui n'en est pas vraiment un. À un moment donné, on se dit, ah non, ça va pas possible. Ça va pas être un feel-good movie. Ils vont pas s'en sortir à si bon compte. Il faut voir le film pour savoir s'ils s'en sortent ou pas. C'est-à-dire que dès le départ, vous saviez dans quel était votre registre.
Mais moi, l'entre-deux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose aussi qui me pose beaucoup de problèmes vis-à-vis de la profession et des financiers qui veulent savoir s'ils financent un film d'auteur ou s'ils financent un film grand public ou un film drôle ou un film tragique, alors qu'on essaye de faire tout en même temps. Moi, ça fait...
Ça fait sourire Manuel Chiche, qui est en train de revivre des choses qu'il connaît très bien. Ouais.
Ça fait 10 ans qu'on me dit « t'as le cul entre deux chaises », voilà, sur chaque film. Donc c'est compliqué professionnellement, mais moi ça fait partie de mes plaisirs de spectateur, et c'est ce qui me plaît aussi chez un immense cinéaste comme John Bong-ho.
Et est-ce qu'on a essayé de vous faire changer la fin quand vous avez pu pitcher votre scénario? Est-ce qu'on vous a dit ouais c'est parfait, mais tu vas pas le finir comme ça, j'aimerais que ça finisse peut-être
Pas ouvertement, mais on m'a dit on veut bien financer le film, mais s'il y a pas de scène d'hôpital. Alors quand on a vu le film, on se rend compte que ça peut être, il n'y a pas que de l'hôpital, mais que ça peut être pénible de raconter une histoire d'un couple face à la maladie quand il n'y a pas d'hôpital.
Et pour le précédent film, vous aviez eu le même genre de réticence?
Oui, parce que
on veut bien filmer ça, mais je veux pas qu'il...
C'était un teenage movie qui passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est...
Donc on veut bien que ce soit un teenage movie, mais on veut pas que ce soit pendant la Seconde
Exactement,
Guerre mondiale.
Exactement, c'est ce qu'on
c'est
m'a
pas
dit.
Vrai.
Si, si.
Je devrais être producteur.
On m'a dit, fais le même film, mais faudrait que ça se passe de nos jours.
Pour quelle raison? Pour des raisons d'économie, là, j'imagine.
Non.
Ah, même pas.
Vraiment, pour des questions de marketing, etc.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est de savoir d'où vous venez, et notamment le parcours que vous avez eu, un parcours qui est passé à un moment donné par le documentaire, La Question Sauvage. Et moi, je me suis demandé, en regardant le film, alors bien que ce n'est pas du tout le journal d'une maladie, qu'est-ce que le documentaire vous avait permis pour ce film-là précisément?
C'est un documentaire sur lequel je travaille toujours et que je cadre. Et en filmant au fil des années, donc je suis beaucoup allé filmer les bergers dans la montagne, et en cadrant des heures, des heures et des heures, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, la fiction qui arrive, faudrait que je la cadre aussi, parce que ça me donne une liberté, une inspiration de cinéma que j'ai pas quand je suis pas au cadre. Donc ça a été le plus grand apport du documentaire sur le film L'Autre Continent.
Ça veut dire que vous êtes au cadre pour votre film?
Oui.
Voilà. Vous faites l'image.
Je fais le cadre. J'ai Thomas Ozou qui est directeur de la photo, qui fait la lumière.
Mais vous faites le cadre.
Mais moi, je fais le cadre.
Ce n'est pas le cas de tous les réalisateurs, loin de là aujourd'hui.
Non, parce que c'est compliqué d'avoir un... En fait, je me mets à entrer dans une danse en même temps que les acteurs, mais une danse physique, c'est-à-dire de sur quel pied on part. Par exemple, Déborah et moi, on savait qu'on partait tous les deux sur le même pied pour que le mouvement de la caméra soit synchrone avec celui du corps de l'actrice.
Vous êtes vraiment metteur en scène aussi, parce que par ailleurs, il fait du théâtre. Par ailleurs, il fait tout. Par ailleurs, il fait de la musique, il est compositeur. Par ailleurs, il fait du théâtre. Par ailleurs, vous êtes aussi photographe. Mais là, ça tient aussi véritablement au théâtre, de partir du même pied que son actrice.
C'est ça, et dans la caméra, on l'oublie, mais il y a une grande part de jeu aussi. Par exemple, dans le film, il y a un test de grossesse qu'un personnage prend à un moment. Et décider à quel moment la caméra remonte du test sur le visage de l'actrice... C'est une décision de cinéma. Moi, je me suis dit, il faut vraiment que j'attende de voir le résultat dans l'œilleton avant de remonter.
Vous êtes fils... Il y a 5 enfants, c'est ça, chez
On
vous
est 6.
Tous dans le domaine des arts.
On connaît
votre frère aussi, Clément Cogiteur, réalisateur.
On est 4 sur 6, oui, qui sommes ouvertement...
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille?
Je pense que c'est tellurique. C'est sur les Vosges, là où on a grandi. on a passé notre enfance à jouer dans la forêt, à s'inventer des histoires et... Et on vit aussi, on a grandi dans un univers de contes. Voilà, il y a des feux de sorcières dans les Vosges, c'est des vapeurs comme ça qui montent dans les bois sans, c'est uniquement de la vapeur. Et je crois qu'on a eu envie de continuer de vivre comme ça et de jouer. Bon, seulement on le fait avec un tout petit peu plus de sérieux maintenant.
Un peu plus de moyens quand même, quand il le faut. Chez vous, c'est pareil, vous êtes combien?
On est 4.
4 ouais. Et dans le milieu artistique, vous êtes combien?
Moi, je me compte pas dans le milieu artistique déjà.
Quand même.
Non, je suis au service des artistes, c'est pas la même chose. Je dirais mon petit frère, qui lui est chanteur-compositeur.
Hein?
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille aussi?
Je sais pas. Je les ai probablement trop nourris à la musique et au cinéma, quoi. Donc, il y en a un qui a craqué.
Vous êtes musicien par ailleurs?
Ouais, j'ai bricolé un petit peu.
Ça se voit au niveau des bagues, généralement, quand quelqu'un arrive
dans
une bague. Ou bien c'est Karl Lagerfeld, ou bien c'est un musicos.
Bon, j'opterai pour l'aspect musicien.
Vous aussi, ça a commencé très tôt, la musique?
C'est ça, mais en bricolage aussi.
Ouais, pour autant, vous signez pas mal de compositions.
J'en ai signé, mais là, j'ai arrêté. Là,
pour vous consacrer uniquement au cinéma?
Au cinéma, oui. Cinéma, photographie, et puis voilà, tout ce que ça entraîne derrière, le montage, etc.
Oui, parce que vous êtes aussi monteur...
Du film, en l'occurrence.
Ouais. Contrôle fric?
C'est un film qui est quand même très très modeste en termes de cinéma, donc c'est pas tant un désir de contrôle que plutôt un désir d'avoir du temps. Et donc, quand c'est moi qui monte tout mon été, j'ai autant de temps que je veux.
L'autre continent, le film sortira en salle mercredi prochain. Merci Romain Cogitor, merci Manuel Chiche. On se quitte tout de suite avec la voix d'Ambrosia Parsley et son folk alternatif, le groupe Chivari, avec une chanson, Good Night Moon.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops.
Night Moon, Chivari en 1999, l'occasion de se souhaiter une bonne nuit, mais la soirée continue car oui, on se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Il faut que je prenne mes responsabilités. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
À droite, règlement de compte à Vauquier Corral. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.